Évidemment, on pense toujours à la création de Tintin, le phénomène du petit 20e où le personnage va être créé et va avoir l'importance que l'on sait. Et on laisse souvent de côté toutes les publications annexes qu'il a fait au sein même de ce journal, qui n'était pas une maison d'édition comme beaucoup le pensent actuellement. Et d'ailleurs, et ça on peut en parler par après, cet éditeur de journal fera faux bond pour la suite des albums, étant donné qu'il s'est toujours avoué éditeur de journaux et de grande presse. Alors le XXe siècle à l'époque, c'était, comme on dirait en grand journal actuellement, avec une série de petits frères et de petites sœurs, dans lequel Hergé va devoir réaliser une série de travaux un peu appliqués, parce que ce sont des travaux de commande. Mais je crois que tout travail de commande a cet avantage d'obliger un jeune auteur à pousser de plus en plus ses techniques et à devoir dessiner des choses qu'il n'avait peut-être pas envie de dessiner. Bon, je pense aux nombreuses illustrations qu'il a faites pour le XXe siècle littéraire et artistique. Donc c'était un supplément hebdomadaire fort bien fait pour l'époque et qui réunissait une série de critiques, d'analyses de livres, d'analyses d'expositions, des grands courants de l'époque. Donc de nouveau, Hergé, en tant que mise en pagiste et illustrateur de ce supplément, pouvait lire et voir toute une série de travaux qui, bien entendu, d'un point de vue purement artistique, avaient leur intérêt. Alors c'était assez intéressant de voir ces illustrations parce que beaucoup d'entre elles sont aussi réalisées un peu, je dirais, à la manière de, ou disons avec des techniques, c'est-à-dire qu'il y a des illustrations qui ressemblent fort à la gravure sur bois, telle que d'ailleurs il en fera pour La vie du roi Albert par plus tard. Ce n'est pas en fait de la gravure sur bois, mais il imite à l'angle la gravure sur bois. Donc en fait, il voit et il a des documents en main qui lui permettent de voir un peu ce que les artistes de l'époque font dans les
Quand on lit Tintin au pays des soviets, c'est vraiment le péril rouge que Hergé décrit. Hein?
Oui, c'est un commentaire. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que je crois pour illustrer cette période, je vais, si vous me le permettez, apporter un commentaire personnel et un témoignage qui a été vécu, enfin, d'une période de cette vie qui a été vécue par quelqu'un de ma famille, qui est ma mère. Qui est né en Russie en 1911, donc c'était encore la période de la Russie tsariste, qui a vécu la révolution là-bas, qui est revenue ensuite en Belgique. Quand elle est rentrée en Belgique, elle ne parlait pas un mot de français. Elle ne parlait que le russe. Et sa famille, étant en Belgique, interdisait aux enfants de la famille de jouer avec cette petite fille de Moujik, ces petites sauvageonnes qui arrivaient là sans éducation et qui étaient un pur résultat du bolchevisme, alors que c'était un enfant, je veux dire, en plus belge, tout à fait d'éducation, etc. Mais il y avait cette hantise du bolchevisme et des soviétiques qui menait à des excès, enfin, extraordinaires.
Oui, moi je dois dire que à l'époque où Tintin au pays des soviets a paru, j'avais 5 ans, alors je me souciais peu de bolcheviks. Alors ce n'est que 10 ans après, vers 38 et vers 39, que là vraiment on entendait que, comme en 30, on entendait que ça, que les soviets, c'était le pire ennemi, et tout ça. Alors, je veux bien croire qu'à l'époque-là, Tintin au pays des soviets, c'était comme une... Enfin, c'était une véritable propagande anti-soviétique, ça c'est certain. Mais c'est ça. Et tout le monde en Europe, enfin, en Europe occidentale, avait peur du régime russe, ça c'est un fait. Il y en avait peu qui étaient pour, quoi. Enfin,
Tintin, je confonds toujours Hergé et Tintin, je crois que c'est assez significatif. Hein. Donc Tintin est revenu vivant du pays des bolcheviks, des salles rouges, et c'était la liesse populaire pour l'accueillir à la gare du Nord. C'était le succès immédiat pour Tintin grâce immédiat, à cette hein. visite.
Oui. Enfin, comment dire, pour moi et pour toi aussi, sans doute, c'est de l'histoire, parce qu'on ne l'a pas vécu. On a vu ça, on a entendu dire ça, et on a vu des photos et tout ça. Et alors, c'était étonnant quand on voit la photo devant la gare du Nord à Bruxelles, qui était remplie de monde pour attendre Tintin qui venait de Russie.
Mais Hergé lui-même a été surpris, d'ailleurs, à cette époque.
Il était dans la foule, d'ailleurs, aussi.
Oui, il était surpris parce qu'on avait évidemment annoncé dans le supplément, le petit 20e, le retour de Tintin. Et on avait on avait invité les lecteurs à venir accueillir Tintin. Mais je crois honnêtement que personne à la rédaction ne s'attendait à un tel succès et à une telle foule. Hergé lui-même a été surpris.
Oui.
Il ne le comprend toujours pas, d'ailleurs.
Ah non.
On ne peut pas dire qu'il avait enfin trouvé un personnage que les gens attendaient et dans lequel ils pouvaient s'identifier.
Non, je pense qu'il
pense
n'y a jamais
pas,
songé.
Je crois que, bon, à cette époque-là, il a dû se dire, bon, ça s'arrêtera là, et on s'est bien amusé, on a bien ri.
Ah oui,
et
surtout puis, qu'il n'y avait aucun scénario, tout ça était fait à la petite semaine. Il n'y a pas une histoire véritable. Quand vous lisez les premiers albums de Tintin, il n'y a pas une véritable histoire. Ce sont des épisodes, des aventures qui se passent, et chaque semaine, il y a une aventure.
Mais je crois aussi, je crois déjà que quand on revoit, par exemple, les dessins de Tintin puis des Soviets, qu'il y avait déjà un souci d'exactitude dans ces dessins. Une voiture sport, c'était une voiture sport de telle marque, un canon, c'était pas encore dessiné comme il faisait 20 ans après, mais on sentait déjà que même le voyage de Tintin avec ses aventures invraisemblables, ça pourrait arriver. Il y a déjà quelque chose là-dedans qu'on retrouve dans ces histoires qu'il a fait après, c'est que ça pourrait être vrai. Et je pense que c'est déjà à ce moment-là que le lecteur se mettait déjà à la place de Tintin, il partait avec lui, il a vécu toutes ses aventures à Berlin, à Moscou et tout ça, et je crois que c'est une des premières fois que les gens lisaient, voyaient déjà une aventure dessinée comme ça, comme il faisait.
Pour les lecteurs, en fait, Tintin n'était pas une bande dessinée, c'était vraiment un reporter qui faisait.
Oui, c'est ça, oui.
Après les Soviets, le Congo, même phénomène aussi, la liesse populaire. Amérique, je ne sais pas, est-ce qu'il y avait aussi ce phénomène de foule?
Non, on n'a pas répété l'accueil. Mais Congo, effectivement, il y avait le même phénomène, en plus qu'il y avait l'empire colonial. Moi-même, je l'ai vécu, donc Bob l'a vécu aussi. On a été imprégné de la colonie. Il y avait la loterie coloniale. Il y avait,
oui, c'est ça. Oui. Et les Noirs qu'on voyait, c'était ou bien au bateau à Anvers, par exemple, les bateaux qui faisaient la navette entre le Congo et la Belgique, et les machinistes qui travaillaient dans les soutes tout à fait en bas, c'était des Noirs. C'était les seuls Noirs qu'on voit, ou bien encore un qui vendait des caramels au marché, comme ça, le dimanche.
Les publicités,
ou la publicité, oui. Je voyais à Paris encore récemment une chose, un magasin qui s'appelait Au Nègre Joyeux. Et ça datait encore d'il y a 5 ans. Oui, c'est ça.
L'Amérique marque une première rupture dans l'œuvre d'Hergé, puisqu'on commence à voir la documentation apparaître. Et puis aussi le côté incisif d'Hergé, parce qu'il y a certaines scènes qui sont drôlement critiques vis-à-vis de la société américaine. Je crois qu'Alain, tu as des exemples à donner.
Mais je les cherche. Je les cherche, les exemples. Bon, il y a eu, je crois qu'avec Tintin et l'Amérique, il y a eu la découverte des Indiens. Ça, c'est vrai. Et je cherche, je ne trouve plus la référence de l'ouvrage auquel Hergé a consacré du temps pour réaliser son aventure. Mais je sais que ça a été la découverte du monde des Indiens.
Oui. Hein, cet épisode. Et aussi les gangsters, Chicago.
Oui, Al Capone, bien sûr.
Al Capone.
On a coutume de dire que c'est à partir de la rencontre avec Chang qu'Hergé a modifié sa façon d'envisager la bande dessinée. Mais est-ce que l'Amérique n'était pas déjà une amorce à ce phénomène?
Oui, mais une amorce très timide, je crois. Très timide encore. De toute manière, je crois, et tu le disais à propos de Tintin au pays des Soviets, il y avait quand même déjà un souci d'une certaine réalité, hein, un souci d'une précision, mais ça n'était encore, puisqu'on en parlait tout à l'heure, ça n'était encore que très vague, puisqu'il n'y avait rien de défini. Le personnage n'était certainement pas destiné à être éternel, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, mais à durer, à avoir un succès comme celui qu'il a connu. Et c'est petit à petit qu'il s'est rendu compte, que Hergé s'est rendu compte de l'impact des aventures de son personnage sur le public. Et effectivement, avec cette rencontre avec Chang, est né un souci majeur de la précision dans le récit.
Mm-hmm. À propos de cette rencontre avec Chang, on va écouter un extrait du Lotus Bleu tantôt après une petite bouffée musicale.
Métier fichu.
Hein?
Michu fait-il. Oui, nous voilà obligés d'arrêter un ami. Nous, arrêter Tintin.
Tu es très beau, tu sais, Dupont, avec ta grande robe de mandarin chinois et ta natte dans le dos.
Oui, et oui, nous avons bien fait de nous déguiser. Imagine-toi l'effet que nous aurions produit dans ce petit patelin si nous étions arrivés ici vêtus à l'européen.
Oh oui, oh
hein?
Mon Dieu!
Nous avons vu tout le monde rire en suivant deux mandarins déguisés et nous sommes venus voir pourquoi. Quel accoutrement. Tenez, je vous présente mon jeune ami Chang. Le pauvre garçon n'a plus personne au monde. Nous nous sommes rencontrés alors qu'il se noyait et depuis c'est à la vie et à la mort. Hein, Chang?
C'est-à-dire que Tintin m'a sauvé la vie.
Mon pauvre ami, si tu savais...
Mais quoi donc?
Comment te dire?
Mais expliquez-vous, voyons.
Regarde.
Ordre aux autorités chinoises de se mettre à la disposition du porteur de la présente pour arrêter. Par exemple, un mandat d'arrêt à mon nom?
Tintin. Tintin.
Faites ce que vous avez à faire.
Bon, chez le commissaire de police.
Ah, je dirais même plus, chez le policier de police.
Mon pauvre Chang. Je suis arrêté. Adieu.
À la barre.
Marche.
Monsieur le commissaire, voilà le prisonnier.
Votre autorisation d'opérer en territoire chinois?
Oui, attendez, mais je la cherche, monsieur le commissaire. C'est
pas... Je dirais même plus. Moi aussi. Sapristi, je l'ai peut-être laissé tomber après l'avoir montré à Tintin. Attendez, je reviens. La voilà.
Simple petit retard, monsieur le commissaire.
J'aurais dû m'en douter. Vous êtes libre naturellement, jeune homme.
Comment?
Quant à vous, messieurs... Garde! Je vais vous rendre votre papier et vous vous en irez très vite. Sans votre prisonnier, naturellement.
Oh, non, mais c'est où?
Non, non, non,
je n'y comprends rien, tu sais, Chang. Après avoir lu leur papier, le commissaire m'a libéré et...
Je sais. Quand ces hommes t'ont emmené, ils ont laissé tomber par terre leur autorisation. Je l'ai vite ramassé et j'ai écrit sur un autre papier de même format, au cas où vous n'auriez pas remarqué que nous sommes deux fous, en voici la preuve officielle.
Et c'est ce papier que Dupont a ramassé quand il est revenu?
Oui, oui.
Oh, Chang, Chang, tu es un véritable ami.
Je vous rappelle que cette émission est la première d'une série de 5 émissions d'hommage à Hergé avec comme invité aujourd'hui Bob Demours et Alain Baran. Bob, Alain, Hergé s'est fait et se fait encore critiquer pour ses premiers albums. Pourtant, il y a eu l'Amérique et à partir du Lotus Bleu, un véritable engagement à contre-courant des idées reçues et une très grande lucidité, je crois, dans ses critiques. Alors, est-ce qu'on peut dire que le gentil Hergé se dépucelait des influences antérieures du Petit XXe et de l'Abbé Wallé?
Je crois que Tintin a toujours été un spectacle, quand même. Le personnage Tintin était un spectateur d'une époque. Et ça, je crois qu'il est resté fidèle à cette façon d'être jusqu'à maintenant. Il y a la technique qui a évolué, effectivement. Il y a la précision dans le récit, etc. Mais je crois que, dès le départ, le personnage Tintin est un spectateur. Avec un engagement qui n'est pas un engagement, justement. Qui est un spectacle, il constate.
Non, je crois que c'est Hergé qui a envoyé son reporter, c'est-à-dire Tintin, à des pays où il y avait quelque chose à... Parce que bon, en 35, par exemple, faire un voyage, c'était encore la grande aventure. C'était pour la plupart en bateau que les gens se déplaçaient s'ils voulaient aller aux Indes ou en Afrique. Alors, je crois que, bon, bien sûr, comme dit Alain, avec l'intrigue qui était devenue plus compliqué, mais moins simpliste qu'avant, le dessin en même temps évoluait. Mais c'était surtout l'aventure qui intéressait Hergé.
Raconter une histoire avant tout.
Oui, c'est ça. Ouais. Oui.
Mm-hmm. Quand il démontre le processus du pouvoir des multinationales dans l'oreille cassée, je ne crois pas que ce soit simplement une observation.
Non, il raconte une histoire, il constate des choses.
Mais ce sont des choses qui se passaient, que bon, lui, il l'avait frappé. Et que bon, il savait dessiner, il savait raconter, il le montrait, en passant d'ailleurs. C'était tout des... Comme Tintin en Amérique, il y a le syndicat des gangsters, il y a les usines, c'est Modern Times de Charlie Chaplin en même temps, il y a les Indiens, bien sûr.
Les temps modernes, pour...
Oui, les temps modernes, pardon, je dirais en flamand. En français. Et voilà, c'est toutes des choses qui le frappaient. Et que Tintin rencontrait au cours de son aventure.
Nous sommes dans les années 30, avant la guerre. Hergé a créé d'autres séries, toujours au Petit XXe, je crois. Je vais vous demander de commenter un peu ces séries. D'abord,
il a créé Quick et Fluke, bien sûr. Voilà. Et c'est étonnant, d'ailleurs c'est amusant de constater qu'il crée, un an après avoir lancé Tintin au pays des soviets, donc Tintin étant un reporter, style grand reporter, qui va à la découverte du monde, un an après, il crée son, je dirais, les personnages opposés, Quick et Fluke, qui sont des personnages typiquement bruxellois. Et je crois, je viens d'y songer à l'instant, donc c'est une primeur, Hergé est né sur le signe du Gémeaux, donc signe d'équilibre, d'ambivalence, qui va d'une fois à l'autre du plus au moins. Et il a créé un personnage qui est Tintin, qui part l'aventure dans le monde, et pour après, pour créer l'équilibre, pour rétablir l'équilibre plutôt, il crée des personnages qui sont typiquement bruxellois. C'est assez étonnant de constater la chose. Il y a toujours ce besoin d'équilibre. Il est allé dans un sens qui était un sens quand même assez excessif, et il rétablit l'équilibre en créant ces personnages qui sont Quick et Fluke.
Entre parenthèses, pour ce côté Gémeaux d'Hergé, je signale à ceux qui seraient intéressés qu'il existe une analyse astrologique du caractère d'Hergé qui est parue dans Sol
de fin de série, effectivement, très bien faite.
Très très bien faite, sous forme de mini-récit, délicieux d'ailleurs, comme
très bien faite. Oui.
Autre série, Josette et Joko.
Oui, Josette et Joko, c'est une commande, voilà, exactement.
Cœur Vaillant, je crois.
Cœur Vaillant,
on
oui.
lui avait demandé de faire une histoire avec deux enfants qui avaient des parents, parce que ça faisait bien, c'était plus sérieux que Tintin, par exemple, qui n'avait pas de parents et qui s'en allait quand il voulait. Alors là aussi, Hergé a fait quelques histoires de Josette et Joko, mais là aussi, après un certain temps, ça commençait à l'ennuyer, parce que c'était assez, d'après lui, et je le comprends,
limité.
Chaque fois, c'est pauvres enfants qui se perdent, alors les parents à la recherche de leurs enfants, de leurs fils, de leurs filles. Et après un temps, il a abandonné. Ça a donc encore été repris à l'apparition du journal de Tintin. Ça ne l'intéressait plus beaucoup.
Non.
Et puis, Popol et Virginie, qui scoopent de Radio Campus, va bientôt être réédité.
Oui, bien sûr.
Encore un essai, comme ça. Un essai, bon, je ne sais pas si on peut appeler ça.
C'est une histoire animalière, ça.
Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que c'était, une influence?
L'influence de Benjamin Rabier. Oui, Benjamin Rabier, bien sûr. Il est encore sous les influences.
Une expérience, je ne sais pas.
Mais Hergé, c'est ça. Il s'est rendu compte qu'avec des animaux, on peut créer des aventures, mais qui sont limitées à un seul épisode. C'est très difficile de créer, je veux dire, une saga.
Oui, alors je me demande si c'est pas parce qu'on l'a poussé à faire ça. Je pense pas que c'est lui qui a
poussé à faire quoi.
À faire la Lapinos, par exemple. Popol et Virginie, parce que je pense pas que c'est lui qui a inventé ça. Je ne pense pas.
Non, je n'ai pas l'impression. C'est pas dans son caractère. Donc.
Ce n'est pas Gémeaux.
C'est pas Gémeaux, c'est ça.
C'est aussi avant la guerre qu'est né un atelier Hergé. Quel était le but de cet atelier Hergé?
C'était surtout un atelier publicitaire, n'est-ce pas, Bob?
Oui, là aussi, enfin, personnellement,
on connaît peu de choses, non.
Je sais qu'il y avait des personnes qui l'aidaient.
On a très peu de documents au sujet de ces ateliers.
Parce que tout ce qu'il faisait, toutes ces illustrations, en plus des histoires de Josette et de Tintin et tout ça, il ne pouvait pas faire ça seul, je crois. Alors il y avait une personne, je ne sais pas.
Non, il n'en parle pas, en fait, non.
Qui lui donnait un coup de main.
Il y a effectivement, donc il y a eu une activité des ateliers Hergé, qui étaient des ateliers de création publicitaire, mais c'était des créations, donc je dirais que c'était pratiquement pour survivre.
Oui. Bon, je me rappelle que d'avoir vu des catalogues du Grand Bazar, je crois, qui étaient illustrés par Hergé, ou des petits bouquins, aussi des catalogues
bon d'un
journal de camping, par exemple, où il avait dessiné des kayak et des tentes, tout ça, ou la couverture. Enfin, il y a des tas de choses comme ça qu'il faisait à l'époque, en plus de ses dessins, de ses histoires.
Puis vient la guerre, Hergé est mobilisé, puis libéré assez vite. Mmh. Et on le retrouve comme rédacteur en chef au Soir Jeunesse. Alors j'ai ici une interview de Paul Hermand qui explique par quel biais Hergé s'est retrouvé dans ce Soir Jeunesse. Et puis une interview de Guy de Sissy, qui est un des premiers collaborateurs d'Hergé, qui va nous rappeler quelle fut la situation de la presse et des artistes durant la guerre.
Il faut d'abord dire que le XXe siècle cesse de paraître, non pas à cause de la guerre, mais cesse de paraître juste avant la guerre. Bon, pour des raisons purement financières, le journal s'arrête de paraître. À l'époque, Hergé, qui a eu illustré un livre de De Grelle, sera contacté par De Grelle, mais il va refuser ses offres. Donc il aurait pu devenir le dessinateur attitré du chef du Rexis. Le Rexisme, un autre dessinateur qui d'ailleurs est aussi issu du XXe siècle, va lui accepter l'offre, et d'ailleurs il l'a accepté depuis plusieurs années. Donc c'est le caricaturiste Jam qui faisait beaucoup de dessins dans le supplément du XXe siècle et sera aussi le caricaturiste et l'affichiste du parti rexiste dans les années 30. Il va aussi devenir le dessinateur donc du Pays Réel et de toutes les publications du mouvement rexiste. Il va aussi d'ailleurs, donc Jam bien sûr, Jam étant aussi le nom de Alidor, dessinateur qui vit toujours aujourd'hui et qui dessine donc dans Pan. Et ce dessinateur va développer donc une série de caricatures antisémitistes très très virulentes. Mais comme il a longuement travaillé, je dirais, dans le même bureau qu'Hergé, il va souvent avoir un malin plaisir à le plagier et surtout à dessiner des policiers bruxellois qu'on pourrait très bien trouver dans Quick et Flip.
Il continue encore,
et c'est lui qui sera donc condamné à mort après-guerre, qui ira se faire oublier quelque temps, donc, et qui reviendra. Il fera d'ailleurs de la bande dessinée dans Spirou dans les années 60, sous un autre nom encore. Il fera des mini-récits. Et très souvent, lorsque les gens polémiquent à propos d'Hergé, ils confondent souvent les deux, et ça c'est assez évidemment lamentable, c'est, disons, un manque d'analyse évidemment frappant. Donc Hergé, lui, va se retrouver sans boulot, mais donc il va être contacté par les gens du Soir, donc le Soir volé, ce qu'on appelle le Soir volé, c'est donc en fait la rédaction du journal Le Soir investie par l'occupant, qui va tout simplement donc désigner une série de personnes pour gérer ce journal, et bien entendu quelques-uns de ces journalistes vont donner leur plume au mouvement nazi. Hergé donc accepte de collaborer au Soir sous forme finalement des bandes de Tintin qui sortent dans Le Soir, et curieusement là il y a une deuxième rupture dans son œuvre, la première étant Le Lotus Bleu avec ce début de Souci d'authenticité, donc la deuxième c'est la rupture, je dirais, politique.